RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 dans le groupe, là, les 3 joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Pierre Ducrot et avec Jonathan McCarty qui nous rejoint. Salut Jonathan.
Salut les gars.
On va parler Copa América avec toi dans quelques instants. Je précise que c'est la mi-temps entre le Paraguay et le Qatar. Le Paraguay donc à la mi-temps mène 1-0. Je précise également qu'à l'Euro Espoir c'est la mi-temps entre l'Italie et l'Espagne, un partout entre les deux équipes. Quant au match amico en cours, l'Algérie dans le temps additionnel mène 3-2 face au Mali et Andy Delors a marqué son premier but avec l'Algérie ce soir, le troisième en l'occurrence des Algériens. Donc il pourrait faire gagner l'Algérie sur un amical. Andy Delors à une semaine de la CAN. Et puis à la mi-temps entre l'Égypte et la Guinée, il y a toujours 1-0 pour les Égyptiens. Le Qatar dans quelques instants au programme, le Qatar à la Copa América. Mais d'abord cette information que nous sort l'équipe ce soir qui dit, l'équipe dit le PSG est prêt à laisser partir Neymar cet été.
Ouais, alors moi je suis en train de lire le papier. Moi, vous m'excuserez, messieurs, d'être prudent avec ce genre de.
Bah, il faut être très prudent.
Avec ce genre d'infos. Cette accumulation, alors il parle d'une accumulation forcément sur voilà, Nasser Al-Khelaifi qui a remis un peu d'autorité, l'arrivée de Leonardo, machin, etc. Cette accumulation de choses a conduit à envisager aujourd'hui un éventuel départ de l'ex-Barcelonais.
Un éventuel.
Ouais, alors envisager un éventuel, elle n'est pas poussée dehors, vu la complexité, ce serait. Parce qu'après, derrière, c'est vu la complexité, ce serait pas. Pour cet été, mais peut-être plus tard. Bon, moi, je veux bien qu'on en parle.
Effet d'annonce, tu veux dire ?
Ouais, d'annonce ou que dalle derrière, mais on fait un article, quoi. Kevin. Je sais pas. Ou alors, s'ils ont des vraies infos, bah, tant mieux pour eux.
Mais l'équipe après, est un média très sérieux. S'ils sortent.
Oui, non, mais. Enfin, moi, les vrais. Les actes, les faits, je les vois pas pour l'instant.
Bah, si, moi, je les vois. Les faits, alors, on sait pas si les faits seront suivis d'actes. Mais lorsqu'on voit qu'on vient de parler quand même d'un certain Dani Alves, qui restera sûrement pas au PSG. On a aussi parlé de Kylian Mbappé qui voulait plus de responsabilités. C'est lui-même qui l'a dit.
C'est lui qui en a parlé, ça, ouais.
Dans les responsabilités, il y aurait peut-être tiré les pénaltys. Petit détail. Par qui sont tirés les pénaltys aujourd'hui ? Par Neymar.
C'est important.
C'est important, c'est des détails qui comptent.
Mais pourquoi tu veux
Pierre, laisse-moi finir. C'est des détails qui comptent dans le sens où il y a quand même 2-3 indices. Le PSG, on sait, avec le fair play financier, va devoir quand même faire entrer beaucoup d'argent. Et s'il pouvait le faire avec un seul joueur, pourquoi pas ? Entre les deux, le plus bankable, c'est peut-être Neymar, mais sur l'avenir, on sait que c'est quand même bien de garder Mbappé parce que c'est le plus jeune. Et donc, ça, plus ça, fait que le PSG pourrait envisager l'éventualité
de
Neymar.
On peut tout envisager.
Si tu veux être irréprochable, et vu ce qui se passait avec Neymar, là, en ce moment et récemment, tu peux dire, attends, moi, je veux plus de ce mec-là, il n'est pas là dans les grands rendez-vous, il y a toujours des histoires extraterrains. Voilà.
Non, être irréprochable. Pour moi, c'est pas forcément
et
ça.
Si
pour le PSG,
si t'as une offre du Barça, par exemple, du Messi veut le rapatrier.
C'est le remettre à sa place aussi, ça peut être ça, être irréprochable. Ouais, après, honnêtement, dans le comportement de Neymar au Paris Saint-Germain cette saison, pour moi, il a pas manqué de professionnalisme. Il a pas. Alors oui, il a été blessé au mauvais moment, certes, mais c'est pas. En plus, c'est pas celui qui sportivement a été le moins performant cette saison. Alors, il a été absent, oui. Au bon moment.
Pourquoi il a été absent? Pourquoi il a. Est-ce que tu penses vraiment.
Et l'an dernier aussi, il a été absent.
Je peux vous donner un élément, Kevin, je vous donne un élément, vous en débattez après. C'est qu'en ce moment, donc il y a la Copa América en Argentine, donc on fait revue de presse le jour de la presse locale. Et il y a pas mal de débats autour de l'avenir de Neymar. De savoir si, est-ce que c'est bien pour Neymar de rester au Paris Saint-Germain? De savoir si, est-ce que pour que Neymar passe un cap, parce que c'est quand même le taulier de cette sélection brésilienne, est-ce pas qu'il soit dans un contexte où c'est, selon les dires brésiliens, plus cadré, plus maîtrisé pour éviter de se blesser, pour éviter les dérapages. Et il y a des vrais débats autour de ça au pays.
Donc les mêmes débats qu'était dernier.
Exactement. Mais oui, à savoir, là c'est vraiment au pays, ça occupe vraiment l'actualité brésilienne. La Copa América n'occupe pas vraiment l'espace médiatique.
Ouais. Le championnat. D'ailleurs, Paraguay Qatar, c'est vide là, regardez.
Tout à fait normal. Pierre, moi je disais simplement que. Remis en question. Voilà.
Je disais simplement qu'il y a quand même quelques éléments qui font que, notamment, plus que Dani Alves, les déclarations d'Mbappé. Et ça, il va falloir que Leonardo le gère. Mbappé veut être le numéro 1.
Kevin.
Oui, il veut être le numéro 1.
C'est à Leonardo de dire que pour l'instant, Neymar, c'est lui qui tire les pénaltys,
le numéro 1,
reste à ta place.
Tu es d'accord que pour que Mbappé soit le numéro 1, il faut bien laisser que Neymar laisse la place.
C'est pas à Tourelle de décider ça, Pierrot.
Ouais, ou même à Tourelle, mais par Leonardo maintenant qui va être la nouvelle autorité.
Moi, j'ai toujours dit que je pense que Neymar, il n'est pas à sa place. Pas forcément au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que la Ligue 1 est un championnat qui lui réussirait? comme la première ligue ne serait pas forcément un championnat qui le réussirait, ouais, par la façon dont ton arbitre,
les coups,
voilà, les coups, sur les joueurs
foot,
en France,
sur le plan foot, ça, voilà, ouais,
les joueurs en France sont peut-être moins protégés qu'ils l'étaient en Espagne, même si en Espagne ils devaient aussi prendre des taquets, il n'y a pas de souci. Mais moi je pense que ce serait peut-être la meilleure solution pour tout le monde.
Ce qui est une évidence en tout cas du point de vue de Neymar, c'est que lui, il se plaît à Paris. Ta vie à Paris lui convient fortement. Il aime bien son quotidien. Donc ça aussi, je pense que c'est à prendre en compte.
Ouais, bien sûr.
Vous entendez en venant sur Florent Thauvin,
c'est vrai.
Et son quotidien est sympa. Enfin, il aime bien. Il a pris ses marques. Et il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est rappelez-vous pourquoi Neymar est arrivé. C'est que Neymar est arrivé comme un instrument de soft power pour le Qatar, qui était en pleine crise diplomatique avec ses voisins. Vous rappelez cet épisode avec l'embargo où il y avait quasiment plus de bouffe au Qatar. Et le Qatar, qui avait eu vent que Manchester City voulait prendre Neymar, avait dit nous on va prendre Neymar juste pour un petit peu faire la nique à nos voisins.
Mbappé.
Ouais, mais Kevin, c'est important parce que Mbappé, aussi connu soit-il, n'est pas encore une marque globale comme Neymar peut l'être. Relativement à Manchester City, qui même s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, est quand même une des équipes dont on parle beaucoup en Europe. Ils ont encore besoin d'avoir ce marqueur fort vis-à-vis de leurs voisins. Tu sais, c'est un petit peu des gaillards entre ces différents pays.
Oui, bien sûr, mais s'ils vendent Neymar à 50 millions et qu'ils rachètent une équipe ou quelques joueurs qui leur fait gagner la Ligue des Champions,
je suis d'accord, Kevin.
La guerre d'ego, elle sera largement gagnée pour le Qatar.
Tu peux prendre 5 joueurs qui sont très forts, qui vont t'aider à gagner la Ligue des Champions en termes de renommée, de diplomatie, de soft power, ça ne vaudra jamais Neymar.
Alors, messieurs, on va clôturer là, donc, ce débat-là. On n'a pas plus d'infos, nous, à RMC ce soir, concernant l'avenir de Neymar. Si on en a, on vous les donne. Et puis, si vous voulez réagir, bien sûr, le 32-16 est ouvert. On va parler du Qatar. Pourquoi ? Parce que le Qatar joue en ce moment donc face au Paraguay à la Copa América. Alors, que fout le Qatar à la Copa América ? Évidemment, ça, c'est un grand mystère.
Non.
Je pense qu'ils ont donné un petit chèque.
Il n'y a pas que ça, Gilbert.
Bah, ils ont quand même donné un chèque.
Bah, en fait, le problème, c'est que normalement, c'est les pays de la CONCACAF qui sont invités. Le Mexique, notamment, oui, qui a beaucoup participé. Et là, tu as la Gold Cup. Donc, vous avez eu Fred Picon.
Ils ont qu'à faire juste avec leur pays sud-américain et puis c'est réglé. Pourquoi ils ont besoin de
parce que c'est, plus c'est parce qu'il n'y a pas assez d'équipes.
Tu fais un format de compétition différent.
Et faut dire deux choses, c'est que le Qatar avait intérêt à. Tu sais qu'ils ont essayé d'inviter la France, l'Espagne aussi, la Copa América pour jouer la Copa América. Mais le Qatar avait besoin de se roder en vue de la Coupe du Monde qui va arriver très vite chez eux. Et le Japon, ils ont pris parce qu'eux, ils préparent leur échéance olympique de qui va être à domicile. Donc il y a un petit intérêt côté Qatari, tu vois, de se roder face à un niveau plus élevé que ce qu'il peut avoir en Asie.
Vous remarquerez que le défenseur du central du Paraguay s'appelle Balbuena. Alors, je sais pas s'il est passé par Libron de Saint-Seurin, avec un B, hein, comme Bribois. Donc, c'est pas Balbuena, mais c'est Balbuena, un cousin éloigné. Pierre Lechantre est avec nous. Bonsoir, Pierre.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors, salut, Pierre. On est ravis de retrouver Pierre dans l'after. Je rappelle que Pierre a été, après une longue carrière de joueur, pour ceux qui s'en souviennent, a été entraîneur au Qatar, sélectionneur du Qatar, après avoir gagné la CAN avec le Cameroun, et en passant quand même, c'est pas rien. Donc sélectionneur du Qatar, mais aussi entraîneur de club au Qatar. Parce que l'idée, Pierre, c'est pas de parler des investissements qatari, tout ça, mais de parler des joueurs. Et façon dont ça se passe sur place. Donc là, on est ravis de t'avoir avec nous, puisque t'as entraîné là-bas. On rappelle donc que cette équipe du Qatar qui reçoit la Coupe du Monde est championne d'Asie en titre. C'était une vraie surprise il y a quelques mois, parce que c'est la première fois qu'ils gagnent une grande compétition. C'est un tout petit pays, le Qatar, en nombre d'habitants. Et donc là, ils sont à la Copa América.
Historiquement, en termes de foot.
Oui, bah c'est rien, quoi.
Voilà.
Ils viennent de deuxième but d'ailleurs là à l'instant, hein. Les Qataris 2-0 désormais pour le Paraguay. Je regardais la compo d'équipe de départ. Il n'y a plus de naturalisés sauf un Brésilien qui s'appelle Pedro Miguel, qui a été naturalisé Qatari. Pierre, est-ce que toi, quand tu étais sélectionneur, il y avait que des Qataris à 100% ou des naturalisés?
Malheureusement, au moment de faire la Coupe du Golfe, l'émir du Qatar, enfin le frère de l'émir du Qatar, c'était le cher Jassim qui était son frère, c'était lui qui était très proche de la sélection et m'avait demandé de faire une sélection qu'avec des joueurs qui avaient eu du sang à 100% qatari. Donc j'avais dû laisser au Qatar 4-5 joueurs, des Sénégalais, des gars qui n'avaient pas tout à fait le statut et qui n'étaient pas qatari. Ça m'avait posé problème d'ailleurs, parce qu'on avait malheureusement fait la finale, mais on manquait en jouant avec des qataris, on manquait de puissance, pour tout vous dire, parce que le problème du joueur qatari, c'est que c'est un joueur qui est longiligne, qui est mince, qui est léger et qui a du mal dans tout. Quand je suis arrivé au Qatar et que je venais du Cameroun, vous devez bien vous y discipliné, quelle différence de morphologie j'ai pu rencontrer entre un joueur camerounais et un joueur qatari.
Bah oui, puis par ailleurs, une différence en termes de nombre de joueurs sélectionnables, parce qu'il y a un licencié au Qatar.
Ouais, je sais pas, à l'époque, ça devait pas dépasser les 1000, je pense. Et moi, j'arrivais quand même de la Fédération Française de Football, où on venait de fêter les deux millions de licenciés. Donc, quand j'ai essayé d'expliquer ça au cher Jassim, je lui ai dit, mais c'est par la quantité qu'on fait la qualité. Il m'a dit, oui, mais vous allez voir, nous, les Qataris, on va être, même si on n'est pas nombreux, on va être au-dessus de ce niveau-là. Bon, bah, moi, je veux bien. J'ai fait avec. Mais je reconnais aussi qu'il y a eu un super travail de fait depuis 15 ans que j'ai quitté le Qatar. Hein. Il y a des jeunes qui maintenant ont des qualités. Moi, j'en vois dans la sélection, là, 2-3 que j'ai pu avoir dans le club de Al Arabi, que le dernier club que j'ai entraîné au Qatar. Et il y a quand même eu de gros progrès, mais malheureusement, il faut toujours avoir ajouter quelque chose pour que l'équipe soit performante. Et il faut ajouter 3, 4, 5 gars qui sont pas tout à fait qataris.
Alors, est-ce que que ce soit en club ou en sélection, est-ce que il y a un vrai comportement de pro? C'est-à-dire, on a souvent fait ces discussions-là avec des spécialistes du Qatar qui nous disent bon, la jeunesse qatari, il y a un problème aujourd'hui d'investissement dans ce qu'ils font parce que
ils
n'ont pas forcément besoin de bosser pour beaucoup d'entre eux. Comment est-ce que vous avez vécu ça, Pierre?
Ben, c'est un peu vrai. Il faut adapter son système d'entraînement. Ça veut dire que l'entraînement du matin, il est compliqué avec les Qataris. Hein.
Bon, pourquoi? Ils ne savent pas.
Ben, ce sont des gens qui vivent encore un peu la nuit. Ils n'ont pas non plus la même alimentation que nous. Je me suis retrouvé avec des buffets de classiques que l'on peut faire pour des joueurs de haut niveau. Ces joueurs-là, à l'époque, j'entends, hein, ça a dû se changer. Hein, je cherche pas à critiquer du tout le Qatar parce que c'est vraiment 5 ans de bonheur pour moi au Qatar et j'ai beaucoup apprécié. Mais je me rendais compte que mes joueurs ne mangeaient pas beaucoup au buffet, les carottes râpées, etc., etc. Et je me suis rendu compte. Mon manager m'a dit, coach, je vais vous emmener dans les chambres. Ils étaient en train de manger le hamburger dans les chambres avec les frites, quoi. Donc, c'était le problème.
Ouais, c'est-à-dire qu'il a fallu leur apprendre ce que c'est qu'un comportement de sportif de haut niveau, en fait.
Oui, mais ça, c'était le problème en 2002, hein, quand j'étais entraîneur national. Mais bon, depuis, les choses ont changé quand même, hein.
Mais c'est notamment avec cette académie Aspire qui a formé quand même pas mal de bons joueurs avec également des talents et des entraîneurs étrangers qui viennent d'un peu partout d'ailleurs et qui apportent leur savoir-faire un peu à l'image de ce que fait aussi la Chine maintenant qui a de grandes écoles de football mais quand même Aspire ça a l'air de bien marcher. On sait qu'il y a des installations qui sont maintenant, Gilbert en parlait, mais les installations aujourd'hui au Qatar, je crois pas me tromper en disant qu'elles sont quand même dignes du plus haut niveau.
Ah, c'est exceptionnel l'investissement qui a été fait par le frère de l'émir du Qatar, le Jassim. Il avait vu qu'il fallait faire quelque chose. Le seul souci, c'est que il fallait remplir ce centre de formation et il fallait le remplir. Il est au fur et à mesure, il le remplissait, mais avec des purs Qataris, c'était compliqué. Donc il fallait faire venir un petit peu de gens de l'extérieur.
On sait que Aspire, il recrute beaucoup de jeunes joueurs africains dès l'adolescence pour les former. Ils sont très bien traités aussi financièrement pour la plupart d'entre eux, pour les former. Ouais. Et effectivement, les meilleurs, je pense que l'objectif, c'est peut-être qu'ils jouent avec la sélection au bout d'un moment.
Oui, bien sûr, c'est le travail. Bon, à mon époque, il y avait notamment un gardien de but camerounais que un gamin de 15 ans qui était rentré au centre de formation. Le papa, la maman et habitait le Qatar dans une maison sympathique. Et donc l'objectif c'était de pouvoir faire évoluer ce gamin-là dans les années à venir comme éventuellement le gardien de but de l'équipe nationale. Ça c'est évident. Hein.
Mais au niveau éthique, Pierre, vous trouvez ça choquant ou pas?
Pardon?
Au niveau éthique, vous trouvez ça choquant ou pas? Moi, je sais pas, demain, s'il y a 6 ou 7 gars dans l'équipe du Qatar à la Coupe du Monde qui sont pas des Qataris de naissance, mais des gars qu'on a récupérés à droite à gauche, ça ouvre un débat, quoi.
Est-ce que vous avez été choqué quand vous avez vu l'équipe nationale du Qatar faire la finale de handball, avec une sélection qui était...
Il y avait un Espagnol, il y avait je crois que c'était un Yougo, enfin, un Serbe ou un Croate dans les buts.
Un peu de tout.
Un Français, il y avait un Cubain de mémoire, il y avait un Espagnol.
Oui, oui. Oui, mais c'est, y a, si vous me trouvez une autre solution, moi, c'était la seule solution que j'avais proposée à la fédération.
Après, ça dépend des objectifs qu'on vous fixe. Parce que si on vous dit qu'il faut gagner la Coupe d'Asie avec 1000 licenciés, c'est sûr que là.
Le problème, c'est ça, c'est que leurs objectifs sont toujours. Enfin, il faut toujours que ça aille très très vite là-bas. Je crois pas me tromper, Pierre, mais le problème, c'est quand ils veulent quelque chose, il faut que ça aille vite et ils veulent l'avoir.
Oui, mais malheureusement, réussir à créer une équipe de très haut niveau
mondial,
ça se fait pas en 5 minutes. Déjà là, moi, je c'est vrai que c'est une bonne chose qu'ils aillent à cette Copa América pour s'étalonner un peu.
Ils iront l'année prochaine aussi.
On sait que maintenant, c'est un des meilleurs pays en Asie, ça c'est évident, avec l'équipe qu'ils ont réussi à créer, mais bon, il faut que derrière ça suive et que à mon époque nous on avait été trop vite hein. On avait déjà une équipe qui était relativement performante en Asie qui était correcte, mais on a voulu aller taper tout de suite l'AC Milan, je me souviens qui était champion et on a voulu aussi taper l'équipe nationale d'Égypte. Bon ben on s'en est pris 6 à chaque fois, on n'était pas encore prêt. Moi dans mon esprit il fallait encore aller taper plus bas quoi.
Après Pierre, écoutez, là on est en train de suivre le match entre le Paraguay et le Qatar, donc on voit quand même qu'il y a quand même une deux, trois grosses marches encore qui sont trop hautes pour cette sélection. On voit que le Paraguay, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction. Ils viennent de changer d'entraîneur il y a très peu de temps. C'est Toto Berizzo qui a pris la tête de la sélection du Paraguay, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, qui est aussi passé par Séville. Et très franchement, de ce qu'on voit sur ces 60 premières minutes, il y a quand même un gap. Alors, on les a vus très performants lors de la Coupe d'Asie, où ils avaient brillamment battu le Japon.
Je pense que le niveau général de la Coupe d'Asie doit être quand même en dessous du niveau de la Coupe América.
Exactement. Mais là, face à un Paraguay qui est vraiment une équipe en pleine reconstruction, qui a connu beaucoup de problèmes, Berizzo y arrive un petit peu comme pompier de service avec une équipe qui joue toujours avec Oscar Cardozo. Vous vous rappelez d'Oscar Cardozo?
Bien sûr. C'est toujours lui
qui est en pointe de l'attaque paraguayenne. Tu vois qu'ils sont vraiment dépassés. Donc je pense qu'il y a quand même encore un petit peu de boulot pour cette sélection-là.
Non, mais de toute façon, il n'y a pas que pour cette sélection-là. Alors là, en l'occurrence, on parle du Qatar, mais en Europe, on a des sélections qui ont de bons résultats avec une petite population. Je pense par exemple à l'Islande, qui est un petit pays, mais qui a bien travaillé année après année et qui finalement arrive quand même à faire bonne figure dans les compétitions internationales. Maintenant, de là à aller gagner une grande compétition, forcément, ça va être très compliqué.
Leur but, c'est de bien figurer dans leur Coupe du Monde, mais le bon exemple, c'est l'Uruguay. L'Uruguay, qui est un tout petit pays.
3 millions d'habitants, l'Uruguay.
Exactement, et qui arrive à enchaîner les résultats, à sortir de joueur sur joueur, parce que t'as un mec qui s'appelle Oscar Tabarez, qui est à la tête de la sélection depuis 13 ans, et qui s'occupe non pas seulement de la sélection A, mais qui s'occupe aussi, des équipes jusqu'en U15. Qui a fondamentalement restructuré le
On parle aussi de pays là, la Croatie, où le foot existe depuis des années. Historiquement, c'est pas la même chose qu'un pays. Le Qatar qui a tout démarré de zéro, quoi.
Ouais.
Après, il vous faut quand même des joueurs comme ça. Hein,
oui, en plus.
Et il y a un problème de philosophie de jeu aussi au Qatar, c'est qu'on aime le beau joueur. On aime le pastoré, on aime ce style-là. D'ailleurs, le choix de l'émir du Qatar, c'est tout à fait pastoré. C'est le beau joueur élégant qu'on aime. Mais malheureusement, dans une équipe, vous en avez besoin d'un ou deux maximum. Mais il faut aussi ceux qui vont récupérer le ballon et des Kanté ou des gens comme ça. Il y en a pas au Qatar. C'est pas le style de la maison.
C'est-à-dire que
une équipe performante, c'est un peu compliqué.
C'est-à-dire que les joueurs, eux, ils veulent pas le gars. Pas jouer latéral ou défenseur central, quoi. Ils veulent
se faire plaisir avec le ballon, en faisant la belle passe, en faisant le beau dribble, en faisant des trucs. Et ça c'est malheureusement ancré dans la philosophie du football qatari.
Mais après, franchement, si on veut faire un constat objectif, ce qu'on a vu du Qatar lors de la Coupe d'Asie, c'était quand même assez séduisant. Il y avait quand même du jeu, c'était une équipe jouait bien. Là, je pense, le constat est peut-être un petit peu noir sur ce match contre le Paraguay, mais je pense que la composition d'équipe est un petit peu hasardeuse. Ils jouent à 5 derrière et je les avais jamais vus jouer comme ça. À la Coupe d'Asie, il me semble qu'ils jouaient en 4-4-2. Et voilà, je pense qu'ils apprennent. Et le fait d'engranger cette expérience-là en participant à deux Copa América d'affilée, parce qu'ils font cette année et l'année prochaine, ça peut être que bénéfique pour eux.
Non, et puis ils vont y arriver. Moi, je vous dis qu'ils vont y arriver. Ils y mettront peut-être un peu de temps, mais ils vont y arriver. Maintenant, là, non, l'ennui, c'est qu'il y a une échéance 2022 avec la Coupe du Monde. Ça va peut-être venir un peu trop tôt, et ça serait dommage qu'ils se fassent sortir au premier tour, parce que c'est certainement pas leur objectif. Mais bon, ils vont y arriver. Ça bosse super bien au Qatar, avec tous les moyens sont mis. Bon, ça, vous doutez bien que tous les moyens sont mis pour que le pays réussisse. Et ils prennent des bons entraîneurs de jeunes, et le travail est bien fait, c'est évident.
faut expliquer un truc, Pierre Lechandre, c'est qu'au Qatar, il y a une tutelle qui chapeaute et la sélection nationale et les clubs. Hein. C'est pas du tout le même fonctionnement qu'en France, par exemple.
C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il y a une fédération qui mène, qui s'occupe en priorité des jeunes, mais il y a l'équipe nationale qui s'occupe, qui est un petit peu à part. Il faut pour quelqu'un qui arrive dans une sélection comme celle-là, il faut s'habituer à un système. Et moi, quand je suis arrivé, comme je venais de la direction technique nationale, je pensais qu'on pouvait mettre en place un peu ce même système, mais c'était pas leur vœu. Ils n'avaient pas bien envie de marcher, de faire cette même organisation.
C'est-à-dire concrètement, comment ça fonctionne alors?
Concrètement, enfin, je vous parle de mon époque. Attention, ouais, hein, ouais. Ça fait 15 ans.
Mais comme après, vous avez entré dans des clubs, et on sait que c'est ça se passe.
Il y a une philosophie au niveau des jeunes, par exemple. Ma dernière expérience avec Al Arabi, c'était en 2013, je crois. Je voulais prendre des jeunes chez les juniors, parce que j'ai toujours bien aimé travailler avec les jeunes. Donc, je voulais faire monter des jeunes juniors en équipe première. Eh bien, le responsable des juniors me refusait les jeunes, parce qu'il voulait réussir à gagner le championnat avec son équipe junior.
En 2013, c'était Pierre?
En 2013, le dernier contrat que j'ai eu avec Al Arabi. Et d'ailleurs, il y avait trois joueurs qui jouent actuellement en équipe nationale, qui jouaient avec moi, dont Boilem, là, qui est un bon joueur de l'équipe nationale, et qui était à l'époque algérien d'ailleurs.
Oui, parce qu'on précise, tiens, c'est Quentin qui m'envoie un message sur Direct TV, il me dit attention, il y a encore des naturalisés. Boudiaf, c'est un Français. Almoz Ali est né au Soudan. Donc il y a d'autres joueurs qui sont nés en Irak et qui après.
Boilem, il est algérien. Coréa, il est Cap-Vert. Il y a encore quelques joueurs qui ont été naturalisés depuis quelques années. Mais Boilem, par exemple, c'est l'Algérien. C'est un garçon que j'avais dans mon équipe à l'Arabie. Il était au Qatar. Depuis pratiquement l'âge de 17 ans. Il avait été le chercher d'une façon très, très précoce et ça a été une formalité pour eux de le faire devenir Qatari.
Après, leur avantage à cette sélection, enfin leur atout à cette équipe du Qatar, c'est d'avoir cet entraîneur, Félix Sanchez Ba, qui est là depuis une dizaine, presque 10 ans, qui a d'abord pris l'académie, donc Kevin parlait, l'académie Aspire, qui a fait après toutes les catégories de jeunes, qui a pris l'équipe olympique et qui maintenant est à la tête de la sélection A. Il y a une vraie continuité en fait avec cet entraîneur qui s'occupe de l'équipe première mais qui chapeaute toujours, qui a un petit peu le regard sur les sélections de jeunes, qui arrive justement à mettre en place un système pour bien travailler avec les U19, les U17, les U20 pour repérer les talents. Donc en fait c'est un projet qui est ambitieux, qui est bien structuré. Le seul petit hic à mon sens, c'est que la Coupe du Monde 2022, elle va arriver peut-être un petit peu trop tôt par rapport à ce qui est mis en place.
Après, tu dépends du groupe. Hein. On voit que souvent, quand même, les équipes qui sont organisatrices de la Coupe du Monde arrivent quand même régulièrement à passer les poules.
Il y a une folie qui s'empare du pays. Regarde les Russes, là. Tout le monde les donnait bidon, et puis au final.
La Corée, mais la folie des supporters qataris, il ne faut pas trop l'attendre quand même.
Hein, on ne sait jamais.
Il y a dans les stades. J'ai rarement vu les stades pleins, à part quand
bien rémunérés, ils peuvent pas venir.
À mon avis, là, il y a un truc au Qatar. En septembre, il y a l'UFC qui fait une carte à Doha avec que des combattants musulmans. Apparemment, c'est le feu. Ils ont déjà tout vendu. L'arène va être pleine. On ne sait pas ce qui peut se passer pour la Coupe du Monde.
Je voulais dire un mot quand même du coach là, parce que il y a un truc. Ce coach là, donc espagnol qui est là,
Sanchez Ba,
qui a déjà été confirmé pour la Coupe du Monde. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il veuille un grand nom, quoi. À un moment, on dit oui, Guardiola.
Mais Gilbert, il est là depuis 2006. Il est au Qatar depuis 2006. Il a fait toutes les catégories de jeunes et il a une maîtrise totale de l'environnement du football qatari. Donc, c'est peut-être intéressant de le garder. C'est un entraîneur qui a quand même eu des résultats. Ils ont quand même gagné la Coupe d'Asie alors que c'était quand même assez improbable. Même la finale contre le Japon, ils étaient quand même pas loin d'être favoris. Loin d'être favoris. Sauf que si tu regardes la compétition dans son ensemble et le travail qu'il fait depuis 1 ou 2 ans, au final, c'est pas tant une surprise que ça.
Et puis pour conclure sur le dossier des nationalisés, j'ai Vasco qui me dit tous les Argentins, Brésiliens qui ont des passeports italiens, choque personne.
Il n'y en a pas tant que ça. En sélection,
il y en a quelques-uns. Excuse-moi,
encore une fois, il parle de Thiago Motta.
Non, mais il y a qui là en sélection italienne? Il y a Jorginho.
Je rejoins le joueur en sélection, mais ils arrivent en Europe.
Qui jouent dans la sélection sud-américaine et qui ont aussi un passeport italien parce que ça les arrange pour leur carrière. Pastore, par exemple, tiens, on
parlait de Pastore. Gilbert, mais c'est un peu pas sur le football de sélection, c'est juste pour le nombre d'extra-communautaires.
Ils se trouvent tous une arrière-grand-mère italienne là, pour devenir italien.
C'est pour le nombre d'extra-communautaires, c'est pas pour jouer en sélection.
Voilà, et puis Vemer nous dit, ah ouais, et au rugby, on analyse tout le monde, ça choque personne. Mais au rugby, c'est pas les mêmes règles. Hein. Au rugby, tu n'es pas obligé d'avoir
le passeport. De toute façon, c'est la seule solution. On peut pas les blâmer. Ils sont obligés d'aller chercher l'extérieur.
Évidemment.
Ils viennent de marquer un but, tiens. Bah voilà, on allait conclure. Ils viennent de marquer un but magnifique en pleine lucarne, là, les Canaries. Ça fait donc 2-1 désormais.
Et ben 2-1, c'est pas mal, en fait, comme résultat, non?
Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas fini, hein. Il reste encore un peu de temps, mais 2-1 désormais pour le Paraguay face au Qatar. Merci, Pierre Lechant.
Salut, Pierre.
Et vous en êtes où, là? Vous êtes toujours en Tanzanie?
Pardon?
Vous êtes toujours en Tanzanie ou pas?
Non. Actuellement, je suis à Juan-les-Pins en vacances, pour tout vous dire.
Ah, très bien.
Très bien, c'est
pas
mal aussi.
Pas du tout en Tanzanie.
Le festival de jazz, vous allez aller.
La Tanzanie, c'est terminé. Je suis en stand-by. Je suis en train de. J'attends quelque chose un challenge qui puisse m'intéresser. Et c'est pas évident.
Merci Pierre, bonne
Salut
chance.
Pierre. Merci.
Donc, Pierre Lechant est sur le marché. Merci. Il est président
de la Tanzanie. Au revoir.
Il a bourlingué sur tous les continents. Il est efficace.
Quelle carrière!
Ah oui, c'est impressionnant. Hein.
Quand tu additionnes joueur et entraîneur, il y a quelques kilomètres quand même.
Exactement.
Le bilan carbone n'est pas excellent. Hein.
joueur historique de Sochaux, Pierre.
Oui, tout à fait.
Ah ouais.
Sélectionneur du Val de
Marne. Sochaux, Monaco, aussi Laval, Marseille, Reims.
Avec Kevin Diaz dans l'équipe.
Exactement. Les clubs où il a joué. Pas entraîné.
Bon, alors 2-1 donc désormais pour le Paraguay face au Qatar. Alors que si je ne rêve pas, les Italiens viennent marquer face aux Espagnols à l'Euro Espoir. Là. Je pense qu'on va avoir un petit Simone Rovera bien surexcité tout à l'heure. Ouais, 2-1 donc pour l'Italie face à l'Espagne à l'Euro Espoir. Il reste 25 minutes. Et 2-1 pour le Paraguay face au Qatar. Il reste là aussi 20 minutes à jouer dans ce match. Dans quelques instants, on est de retour à la Copa América au programme. On a le Brésil face à la Bolivie, on a vu l'Argentine face à la Colombie, notamment on a aussi vu Venezuela, ça c'était moins excitant, 0-0,
intéressant.
La nuit dernière. Ouais, mais Jonathan, tu fous n'importe quoi, tu es américain, il veut dire que c'est intéressant.
Non, c'était intéressant.
Ah, il peut aussi avoir des matchs pourris.
Écoute, là j'en peux plus, je me suis fait les matchs, je me suis pas coupé parce qu'il y avait Tyson Fury qui combattait, là, c'est n'importe quoi en ce moment.
C'est vrai que tout le truc de Jonathan, c'est la nuit, tu sais.
Bah, c'est un homme
vous
de la
avez
nuit,
vu Tyson Jonathan. Fury quand même.
T'as déjà vu Jonathan le jour, toi?
Moi j'ai jamais vu le jour.
C'est vrai. Ouais, en général, l'after, c'est plutôt la nuit, t'as raison.
Ouais, non, mais
c'est le début de la journée.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Pierre Ducrot est là, Kevin Diaz est là, Jonathan McCarthy est là également. N'oubliez pas, tout à l'heure, après 23h, les drôles de l'âme, bien sûr, pour tout le foot européen. J'ai encore d'autres infos à vous donner hein, ce soir, des infos Mercato. Tu vois, bon, Mercato, je pars maintenant, tiens. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié un petit info marseillaise qu'il faut que je vous donne. Olivier Ncham, joueur du Celtic, qui a été formé en partie au Paris FC, pourrait bien... Enfin, en tout cas, l'OM s'intéresse à lui. Et lui est intéressé par l'OM.
Très bien.
Voilà. Donc, il joue aujourd'hui au Celtic. Hein, bien sûr, il est actuellement avec l'équipe de France Espoir.
Parfait.
Donc, ça te plaît, ça, Ncham?
Il joue dans le club de la diaspora irlandaise. Officiel, qui est un très bon joueur.
Il a enchaîné
des très bonnes prestations en Ligue des Champions, on l'a vu. C'est un joueur qui est prometteur, avec les espoirs il est très bon. S'il y a le départ de Morgan Sanson ou de Maxime Lopez, c'est le remplaçant qui est idéal. Et c'est même peut-être mieux que ces deux joueurs-là parce qu'il a un potentiel qui est vraiment énorme.
Oui, on parle d'un départ de Maxi Lopez d'ailleurs.
Maxime.
Oui, mais bon, on l'appelle Maxi dans l'after, t'es
quoi? Ouais, respectez Maxime Lopez.
Alors, mode argentin.
Et moi j'aimerais bien, juste par la nique
pour... Tu gagnes 1 ou 2 millions là.
Non mais, tu sais quoi?
Juste Maxi ou Maxime,
juste pour faire... Juste pour voir un petit peu la réaction de nos amis Daniel et Jérôme, je suis curieux de voir à quel Sam il va partir. Enfin, je sais qu'il est bien
Maxi.
Maxime. Le Maxime Lopez de l'OM. Je suis curieux de voir à quel Sam il va partir parce qu'il a une très belle cote, notamment
part, hein,
en Espagne. Et j'oublie son nom à chaque fois, le directeur Monchi qui est retourné à Séville, qui est fou amoureux de lui. Et donc, après toutes les blagues, c'est un joueur. Je pense qu'il peut partir pour une belle somme.
Combien Maxi Lopez? 80?
Maxime Lopez.
Maxi Lopez.
Non, mais je pense qu'une trentaine de millions, oui.
Maxime 30, mais Maxi.
Le problème, c'est que depuis que Vanda l'a quitté pour Icardi, elle a pris les gosses, elle a été avec Icardi, il n'y a plus personne pour défendre ses intérêts, le pauvre.
Ah là, elle parle du vrai Maxi.
Ouais.
En l'occurrence.
30 millions, c'est un peu cher, peut-être. Écoute, en tout cas, c'est les bruits qui murmurent du côté de l'Espagne.
Jonathan, pardon.
C'est les bruits. 15, 20 max. C'est les bruits qui courent du côté de l'Espagne. Et en tout cas, c'est la direction de l'Olympique de Marseille qui se positionne là-dessus. Ça sera entre 25 et 30.
N'écoute pas les agents, Jonathan. Non.
J'écoute pas les agents, je te dis juste. Moi, vous vous foutiez de ma gueule quand vous avez dit que Morgan Sanson, c'était minimum 35. Et au final, il y a l'info qui sort après. C'est minimum 35. Et il y a des offres même à 35.
Ouais, mais ça, c'est ce que l'OM dit. Ils veulent le vendre à 35.
Ah bon?
Ils le vendront jamais à 35.
Et Wolverhampton qui fait une offre à 35 qui refusait, c'est quoi?
C'est du camembert, ça?
Il a vu, là? T'es le seul à l'avoir vu, toi.
Allez, c'est du camembert. Moi, je fais confiance à ce qu'on me dit. Non, c'est bon. Maxime Lopez, il est pas si, il est pas si. Maxime Lopez, on se moque de lui en France parce qu'il a une tête un petit peu. Voilà.
Mais
je vous assure qu'il a une cote. Il a une cote, c'est tout.
On n'a pas dit qu'il avait pas de cote. Mais c'est le problème, c'est l'endroit où tu places la cote.
Mais vous prenez pas en compte l'inflation du marché qui est terrible.
C'est du camembert.
Zambo Anguissa, il est parti à combien, les gars? Zambo,
ouais, ça c'est vrai.
Alors,
ça, c'est
le vrai. Marché, en fait, il y a une bulle inflationniste qui est énorme.
Bah, 30.
30, mais oui, il y a une bulle inflationniste qui est énorme.
Oui, mais Jonathan, 30, c'est pour l'Angleterre. Là, on parle de l'Espagne. Les clubs espagnols, ils sont pas.
Il a des offres en Angleterre aussi. Ils vont pouvoir faire jouer la concurrence. Et surtout. Oui, il a des offres en Angleterre, des Wolverhampton. Et je t'assure, il y a un truc en fait qui joue en sa faveur, c'est qu'il a été étincelant contre Bilbao l'année dernière en Europa League et qu'il va bouffer sur ça. Attention, je te dis pas qu'il a le niveau, mais il va bouffer sur ça pendant encore un petit moment.
Non, mais c'est un bon joueur.
Mais il a eu la chance de faire deux très bons matchs contre Bilbao.
Ce qui peut jouer pour lui en Angleterre, c'est qu'il a un énorme volume de jeu. Il peut cavaler tout le temps et qu'il regarde vraiment ça maintenant là-bas. Les courses à haute intensité que tu peux faire pendant un match, il regarde énormément ça.
3-4 checkers de protéines, un peu de muscu, il peut prendre de la masse. Hein.
Bon, bah ça, tu.
Regarde Samir Nasri.
Tu lui diras, moi je rentre pas là-dedans.
Mais regarde Samir Nasri quand il est parti en Angleterre. Il a pris 10 kilos.
Je le vois plus en Espagne, effectivement, qu'en Angleterre quand même, mais bon.
Jordan Ikoko signe en Bulgarie à Ludogorets. Alors voilà une destination.
Ça, c'est tes destinations de vacances, Gilbert.
Ah non, Ludogorets, c'est au centre de la Bulgarie.
C'est pas assez exotique.
C'est pas la côte.
C'est pas la mer, quoi, ouais.
C'est peut-être un bon contrat, hein, mais c'est peut-être un club, oui, un club français qui s'intéresse à Ikoko. Ouais, peut-être très bien.
Pas de nouvelles de Flavien T, Pierre.
Ah si, moi j'en ai tous les jours. Hein. Heureusement.
Tout à l'heure, on parlera de Pogba. On parlera de Pogba avec les drôles de l'âme, hein, tout à l'heure. Sinon, au niveau mercato, je voulais également vous donner la petite déclat du jour. Tanguy Ndombele, qui dit dans Téléfoot ce matin, Tottenham, ah, c'est un grand club. Oui, enfin, Tottenham s'intéresse à lui. Voilà. Donc en gros, je pense que si c'est possible, ça se fera.
Il y a qui dans le secteur de jeu?
Attention, égalisation du Qatar, messieurs dames, à l'instant. Il suffisait qu'on en parle pour qu'il se réveille. Ils viennent de mettre 2 buts.
Et
il y a un joueur du Paraguay qui est coincé dans les filets, dis donc.
Il s'est fait mal.
Il s'est fait mal. Bon, il n'est pas coincé. En tout cas, 2-2. Égalisation du Qatar à l'instant face au Paraguay.
On a bien fait de dire qu'il pourrait faire une belle Coupe du Monde, finalement.
Oui, bah écoute, on n'a pas vu le but là, mais il y a un joueur.
Le premier était un peu chanceux.
Ouais, mais
il a été
contré.
Non, il a été contré.
Hein. Il a contré, mais plein de lucarnes ensuite. Ouais.
C'est un Paraguay qui est quand même faible, hein, encore une fois. Hein. L'entraîneur Toto Berizzo est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il a pris une sélection qui était en plein sinistre. Ils ont fait un bon début de match.
Il y a quand même 10 minutes, tu lui disais qu'il y avait 3 marches d'écart. Hein. Mais bon, il y a 2-2.
La première mi-temps, ils n'ont pas vu le jour. La première mi-temps, ils n'ont pas vu le jour, Gilbert. La première mi-temps, le Qatar n'a pas existé.
C'est quoi ce but encore?
Mais c'est ça la magie du foot.
Et là, c'est 2 buts, tu vois, un petit peu gag quand même.
Comment il a pu se faire mal?
C'est pas le Qatar.
De toute façon, on a parlé de certains pays européens en ce qui concerne la population. Renouvellement, mais voilà, les Paraguayens, c'est aussi une question de génération. Ils sont peut-être un peu dans un trou.
Je crois que Franck Ribéry s'est fait mal à son coude.
Non, mais il faut décrire le but paraguayen, c'est quand même le but qatari, c'est un Paraguayen qui met une belle tête contre son camp et qui s'éclate le bras contre le poteau. C'est quand même vidéo gag un petit peu ça.
Non, il s'éclate pas contre le poteau.
Non, c'est le filet.
Il essaye de sauver le ballon et il n'y arrive pas. Il finit dans le filet et je crois qu'il s'est coupé avec le filet.
Non, c'est la barre qui est derrière le.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Il tient le filet au sol.
D'accord, la barre au sol.
Oui, il s'est fait mal.
Le débit
il sort, c'est Roras, le Paraguayen concerné.
Ah, il sort carrément.
Ouais. Donc tout à l'heure, avec les droits de l'homme, on parlera de Pogba. On parlera également de Sarri, bien sûr, qui arrive à la Juve. Et puis, dans les infos PSG du jour tout à l'heure, il y a également Buffon. Hein, la petite interview du jour, là aussi, on en parlera avec Simone Rovera tout à l'heure. Bon, la Copa América, Jonathan. Brésil-Bolivie, ça c'était dans la nuit de vendredi à samedi, oui. 3-0 pour les Brésiliens. Ils n'ont pas fait non plus un grand match.
C'était pas un très grand match, c'était un match qui était sérieux. Coutinho a pris le jeu à son compte. Il a été étincelant, il a marqué 2 buts, il a été impliqué sur l'ensemble des buts brésiliens. C'était un match qui était très sérieux. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il y a pas mal de variations tactiques. Par Tite, qui lorsqu'il était arrivé, tout le monde, il avait commencé avec son emblématique 4-1-4-1. Là, il y a eu un beau double pivot avec Fernandinho et Casemiro au milieu, qui a relativement bien contrôlé la rencontre. Après, ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est la défiance, en quelque sorte, du public brésilien vis-à-vis de sa sélection. Les joueurs ont quand même été pas mal sifflés. Hein, c'était une ambiance qui était assez tendue et ça montre bien une chose, c'est que le peuple brésilien est toujours marqué par la double humiliation en Copa América. d'il y a deux ans. Et puis de la Coupe du Monde, ça te fait sortir sans trop d'éclat, même si c'était pas si mal que ça. Donc la sélection brésilienne est attendue au tournant, il y a beaucoup de pression, mais c'est assez enthousiasmant de voir un Coutinho à ce niveau-là.
Vous avez vu des extraits où
Moi, j'ai regardé.
C'était dur à regarder en intégralité, c'était à 2h30 du matin.
Non, moi j'ai regardé un petit peu de ce match, mais surtout deux matchs de préparation. De toute façon, il y a de la qualité dans cette équipe du Brésil, c'est sûr, c'est indéniable. Après, c'est vrai que c'est pas facile pour un joueur brésilien de jouer dans cette atmosphère, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de ferveur. C'est un public qui, je sais même pas si on peut utiliser le mot de aimer le football ou de adorer. C'est un peu comme une religion là-bas. Et donc pour les joueurs, c'est pas facile. En tout cas, sur le terrain, ils arrivent à répondre présent dans des conditions quand même de jeu. Je trouve que, alors tu disais que Messi en a parlé, mais la qualité des pelouses,
c'est compliqué. Comment
ça c'est quand même difficile.
C'est une question d'infrastructure, de climat actuellement. C'est une question de moyens aussi pour entretenir ces pelouses-là. Après, il faut ajouter un petit détail, c'est qu'à Sao Paulo, les gens, comme nous le disait très bien notre ami Stéphane Rosenbaum, les gens ont tendance à être un petit peu plus froid, un petit peu plus distant, et cette ambiance-là, voilà, je pense que s'ils vont un petit peu plus vers Rio, ça devrait aller un petit peu mieux. Mais c'était impressionnant ces sifflets-là à l'entrée de.
Mais sur l'entrée, c'est Daniel Alves qui disait que ce sera mieux du côté de Salvador de Bahia.
Oui, parce que voilà, les gens à Sao Paulo ont une culture peut-être un petit peu plus différente, ils sont un petit peu plus froids, et je pense qu'ils ont un petit peu la dent qui est peut-être un petit peu plus dure envers ce qui s'est passé.
Mais c'est ça aussi un grand pays de football. Hein.
Exactement.
Les supporters, ils sont pas obligés d'avoir oublié l'élimination. Exactement. Assez précoce quand même en Coupe du Monde, même si c'était face à une belle équipe de Belgique dans des conditions, on va dire, un peu défavorables. Mais bon, voilà, dans un grand pays de foot, les supporters n'oublient pas, et ça, il faut le respecter.
Ça va être un match intéressant qui attend les Brésiliens maintenant contre le Venezuela, qui est un des outsiders de cette Copa América. Le Venezuela va être dans l'obligation de faire un résultat contre le Brésil après le nul contre le Pérou. Donc c'est un match qui risque d'être extrêmement intéressant.
Bon, la Bolivie, les pauvres, on l'a déjà vu contre la France.
Faut dire la vérité, c'est nul.
C'est peut-être la pire équipe aujourd'hui d'Amérique du Sud.
Faut dire la vérité, c'est nul. Les clubs et la sélection font des résultats parce que lorsqu'ils jouent à domicile, ils prévitent. Non, mais tu sais, quand les clubs et la sélection jouent à domicile, bon, bah, ils profitent de cette altitude qui est assez dingue. Les autres arrivent, ils sont en manque d'oxygène, ils sont en
point de sécurité. C'est des bêtises, ça, mon Joe.
Ah bon? Ça va mieux, c'est ça?
Le manque d'oxygène se fait ressentir au bout de 4 jours seulement.
Exactement.
Ouais. Et alors pourquoi?
Ouais. C'est du pipeau, tout ça.
Il fait des Viagra, mais pourquoi il fait des Viagra?
Ça, je sais pas. Mais...
C'est vrai que le Viagra a cette vertu d'effacer le mal des montagnes.
Écoute, paraît-il. Une fois, moi, j'étais à l'Alpe d'Huez pour avec des
camp
d'entraînement de boxe sans prendre de Viagra. Au bout de 30 secondes, je me roulais par terre, quoi.
Mais alors, ça, c'est dans ta tête.
Dans la tête, mais je sais
c'est
pas.
C'est comme
quoi.
Le vertige.
Ouais.
C'est dans ta tête.
Écoute,
ouais.
Peut-être. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que cette sélection, elle est pas super. Enfin, voilà, on s'attendait pas à grand chose. Le Brésil a fait le travail. C'était pas étincelant, mais le travail a été fait. On verra, mais ça risque d'être un petit peu le punching ball des trois autres équipes qui sont quand même d'un très bon niveau.
Dans quelques instants, on va attaquer le gros morceau, à savoir l'Argentine-Colombie d'hier soir. Celui-là, il était pas mal. La Colombie est là plus que jamais. Et Messi, comme d'habitude, le type, t'as l'impression que dès qu'il met le maillot de l'Argentine, il n'y a rien qui va. C'est quand même incroyable. Non, mais c'est fou.
C'est vrai, Gilbert.
On en reparle dans quelques instants. La Copa América au programme avant les drôles de l'âme. Juste après 23h, avec un gros programme ce soir, Sarri, Buffon et tout le reste avec les drôles de l'âme. 2-2 toujours entre le Paraguay et le Qatar à 7 minutes de la fin du match. 2-1 pour l'Italie face à l'Espagne à 10 minutes de la fin du match de l'Euro Espoir. A tout de suite sur RMC.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Si vous êtes des grands malades du foot sud-américain comme Jonathan McCarty, si vous enchaînez les nuits blanches depuis 3 jours et que vous vous apprêtez à rester debout pour regarder un bon vieux Équateur-Chili dans les jours qui viennent, eh bien c'est maintenant. Appelez le 32-16 pour débattre avec nous de la Copa América. Alors que le score se confirme entre le Paraguay et le Qatar, il reste 2 minutes 30 à jouer, 2-2 entre Paraguayens et Qataris dans un stade vide, ou quasiment, Jonathan. Je comprends pourquoi la Conmebol, là, qui organise ce truc, ne met pas des billets, je sais pas, à 2-3 euros pour remplir les stades. C'est complètement grotesque. Bon, enfin, bref.
Exactement. Mais il y a un contexte sociopolitique qui est assez compliqué au Brésil en ce moment.
Non, mais on aime le foot au Brésil. Si tu dis aux gens, ça coûte quasiment rien.
Les gens.
2 euros.
Oui, tu as raison.
Tu vois, les gens, ils vont voir les matchs. T'aimes le foot.
C'est le calendrier, c'est les gens.
Stéphane Rosenbaum, je le disais tout à l'heure, nous expliquait que ça représentait 10% du salaire moyen, les places les moins chères.
Bah, c'est quand même très cher.
N'importe quoi.
Et puis, t'es en plein milieu du championnat, t'es en plein milieu de Copa Libertadores. Les gens, voilà, ils rentabilisent leur budget.
Voilà. À minuit, il y a Uruguay et Équateur hein, pour les fous furieux. Mais je crois que je vais le regarder celui-là.
Oui, il faut regarder ça.
Uruguay et Équateur. Attention, l'Équateur, sélection un peu sous-estimée. Et les clubs équatoriens marchent bien dans les coupes sud-américaines.
Avec Ener Valencia qui est le binôme d'André Pierre Gignac au Tigres.
Avec la Liga de Quito et l'Emelec Guayaquil. Ouais. Toujours en Copa Libertadores.
L'Équateur, c'est très solide.
Tu es le seul à suivre ? Oh.
Ben non, mais pas du tout, mon gars. Pas du tout, mon gars.
Bon alors, Argentine-Colombie, ouais. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce match ? Donc, victoire des Colombiens hein, la nuit dernière face aux Argentins.
Eh ben, on doit retenir que ces deux sélections, qu'il y a encore quelques mois, étaient un petit peu en phase de transition. T'en as une qui a pris Carlos Queiroz pour diriger son équipe, qui revit depuis, très franchement. C'est la Colombie. T'as des bons joueurs côté colombien. T'as un sélectionneur qui fait du très bon travail, qui fait quelque chose de sérieux en très peu de temps. Et de l'autre côté, t'as l'Argentine qui est en proie au même doute qu'auparavant. C'est-à-dire que Scaloni a pris cette sélection en Argentine alors que pour être une espèce de super intérimaire. Il a réussi à se faire confirmer. Le résultat était relativement positif. Mais t'as un espèce de syndrome qui est que à chaque fois que Messi revient, à chaque fois que Messi joue, t'as l'impression que l'ensemble des joueurs sont tous paralysés. Ils sont tous comme obsédés par faire la passe à Messi, par jouer pour Messi. Et au final, tout ce qui avait été mis en place tactiquement, eh ben t'as plus de plan de jeu, t'as tout qui part en éclat. Donc là, pour résumer le match, très franchement, la première mi-temps c'était dur à regarder. Il s'est pas passé grand chose. Messi, impossible de le trouver. Il a passé son temps à marcher aussi, il faut le dire. Et puis t'avais un milieu de terrain qui était.
Je te coupe, mais j'ai la compo sous les yeux. T'as quand même une équipe de dingue.
Ouais, c'est un truc de fou.
Dans l'absolu, t'as trio en attaque. Agüero, Di Maria, Messi.
Non, c'est un binôme. Agüero, Messi. Oui,
Non mais tu.
Ouais, ok.
C'est les trois joueurs, voilà, les plus offensifs. Bon, Paredes, ça fait un match tout pourri, on pourra y revenir.
Oui.
T'as Lo Celso, qui est titulaire. Enfin, je veux dire, t'as quand même.
Même derrière, t'as Mendy Pezzella, t'as Tagliafico Kevin Mendy, connaît bien.
Il n'est pas de première fraîcheur, mais il est là.
Bon, la route quand même.
Le problème, c'est que cette équipe a fait un non-match. Il n'y a pas eu grand-chose qui a été proposé. T'as juste eu 10 minutes en seconde période avec la sortie de Di Maria qui a été fantomatique qui s'est fait remplacer par De Paul. Et à partir de là, l'Argentine a proposé un peu de jeu, s'est créé quelques situations dangereuses pendant 10 minutes. Et puis ça n'a pas manqué. Hein. De l'autre côté, avec tout le respect que j'ai pour Scaloni, Queiroz, c'est quand même l'échelon supérieur dans la chaîne alimentaire des sélectionneurs, tactiquement parlant. Il a fait trois changements et sur ces trois changements, ont été payants. T'as Lerma qui est rentré, qui a fait beaucoup
la
de bien.
La chaîne alimentaire des sélectionneurs.
Ouais, c'est un anglicisme que j'ai traduit un petit peu dans l'échelon, ouais. Tu vois, dans la hiérarchie de la qualité des sélectionneurs.
Ils se croqueraient les uns les autres.
C'est un anglicisme que j'ai traduit un peu bêtement, mais je pense que.
D'où l'embonpoint de Bielsa.
Ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça traduit en anglais?
On dit top of the food chain.
Ah oui.
C'est le.
Ouais, je pense
le haut niveau, quoi.
Voilà, ouais. Et donc, t'as Lerma qui est rentré, t'as Duván Zapata qui est rentré. Voilà, forcément, t'as Roger Martinez aussi qui est rentré et les trois joueurs sont inclus sur les deux buts colombiens.
C'est un bon joueur, hein.
Oui, c'est un très bon joueur de l'América.
Mais Gilbert, c'est vrai qu'on peut juste parler 30 secondes de la Colombie, parce qu'en France, on le sait pas forcément, mais c'est quand même un énorme pays de football, hein, la Colombie.
Bien sûr.
Beaucoup ici. On parle du Brésil, de l'Argentine, voire de l'Uruguay. Mais la Colombie, moi j'ai croisé notamment un joueur colombien qui était d'ailleurs le cousin, il s'appelait aussi Valencia, qui était le cousin de celui qu'on a connu longtemps à Manchester. Mais il me disait, mais dans mon pays c'est incroyable, il y a des joueurs de grande qualité, bien sûr James Rodriguez, mais quand on voit qu'un joueur comme Santiago Arias, que moi j'ai croisé aux Pays-Bas, qui est sur le banc dans cette équipe, oui. Qui est un super latéral droit... On en voit, je suis pas sûr qu'on est meilleur en équipe de France.
Non,
que
je suis d'accord.
Arias, par exemple, mais qui est remplaçant en Colombie, qui est un joueur qui joue à l'Atlético Madrid. Je peux vous dire qu'il y a quand même Muriel, Uribe.
Non, au milieu de terrain, c'est le mec le plus impressionnant,
Sanchez,
c'est Wilmar Barrios.
Guerimena, c'est pas mal quand même.
Wilmar Barrios, qui est un joueur de Boca Juniors, hier, il a fait de Messi sa chose, il a mis dans sa poche. Messi n'a pas vu le jour, il l'a harcelé. On l'avait vu un petit peu contre la France, rappelez-vous de ce match contre la Colombie au Stade de France. C'est un super joueur. Et alors, devant, ils ont un talent offensif qui assez impressionnant avec Falcao, Rames. Bon, malheureusement, Luis Muriel s'est blessé. Ouais. T'as Cuadrado aussi.
Ah, mais Muriel, Copa América terminée d'ailleurs.
C'est terminé, mais vu l'entrée de Roger Martinez, bon, tu te dis que t'as quand même du matos. Mais au milieu de terrain, c'est très fort. Barrios, Uribe, c'est très très fort.
Il y a un truc, Jonathan, je sais pas si tu seras d'accord avec moi. D'ailleurs, Gilbert, on a parlé, je viens de voir sur Twitter, les maillots. Les maillots de cette équipe de Colombie.
La Colombie, les maillots. L'ensemble des maillots
est magnifique.
J'ai tweeté, moi.
Ah ouais.
L'ensemble des maillots est magnifique, mais toujours les maillots de la Colombie.
Oui.
Le jaune et même ce bleu électrique là hier. Franchement, quelle classe.
Ah ouais.
Non, c'est vrai.
Colombie, Pérou, enfin tout.
C'est magnifique.
Même le maillot blanc. Brésil, je trouve magnifique aussi. Enfin, il y a beaucoup de beaux maillots.
L'Uruguay, bien sûr.
L'Argentine, bien sûr.
Mais le foot sud-américain a la classe.
Ah ouais, non, mais franchement, il sait faire.
Il a Grinta, il y a tout. il y a la ferveur, c'est
alors, est-ce que tu positionnes la Colombie comme un potentiel vainqueur?
Non, il y a deux favoris qui sont très clairs, qui sont le Brésil à domicile avec Tite qui est dans la continuité, t'as l'Uruguay qui est tout, qui va être aussi le second favori, parce que l'Uruguay, tu sais l'image qu'on avait un petit peu de cet Uruguay d'il y a allez 4 ans, 5 ans, qui était une équipe avec beaucoup de testostérone derrière, qui verrouillait un petit peu et qui misait sur le talent de ses joueurs offensifs, c'est terminé. T'as un renouvellement générationnel que Tabarez a orchestré de main de maître en prenant les sélections de jeunes au milieu de terrain avec les Bentancourt, les Vecino, les Torreira. C'est une équipe qui est beaucoup plus joueuse et c'est une équipe qui arrive vraiment, qui est le parfait mélange entre des jeunes individus, des jeunes joueurs talentueux, des joueurs d'expérience extrêmement talentueux et des vieux grenouillards à l'instar de Diego Gonin derrière. Donc c'est Brésil, Uruguay et je mets la Colombie, tu vois, dans un deuxième wagon d'outsider.
J'ai l'équipe normalement qui devrait jouer ce soir. Franchement, t'as l'impression que c'est la même équipe depuis 10 ans.
Ah oui,
je fais. Jiménez, Godin, Cáceres, Laxalt.
Ok.
Après milieu, Bentancourt, Vecino.
Ouais, c'est ça le changement. Bentancourt, Vecino.
Lodero. Alors là, il y en a un que je connais pas. De Aracheta.
Aracheta qui joue en Espagne, ouais.
Et devant, Suarez, Cavani, évidemment. Ouais.
Mais en fait, le vrai petit twist, en fait, c'est ce milieu de terrain avec Vecino et Bentancourt.
9 sur 10, là.
Oui, mais c'est le milieu de terrain. À la Coupe du Monde, il y a un an, Jonathan, on peut pas dire que c'était football champagne, quand même, l'Uruguay.
Non, mais ça jouait déjà mieux avec Bentancourt, avec Vecino, Torreira.
C'est quand même beaucoup très défensif.
Ça a quand même un petit peu plus de ballon que, même si j'adorais ce joueur, qu'un Carlos Sanchez, par exemple. Donc, c'est qu'un Sanchez.
C'est vrai que Maxi Lopez, tout ça, ça joue plus. Mais bon, alors Lopez, ok, les jeunes
est argentin.
Pardon, Maxi, celui qui jouait au Benfica et à Porto ensuite. Mais bon, il y avait quand même. Ouais, pardon, il y avait moins de talent. Mais bon, il y a plus de talent aujourd'hui, mais c'est pas encore Joga Bonito quand même.
C'est pas encore, mais t'as quand même une sélection qui a des certitudes et qui enchaîne les bons résultats.
L'Uruguay, ça a jamais été Joga Bonito.
Ah oui, non. D'accord. Mais Jonathan essaie de nous le vendre comme Joga Bonito.
Ah non, pas du tout. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que c'est une équipe qui jouait mieux et qui avait plus de.
On aime tous l'Uruguay, on a une affection un peu pour ça. Parce que
c'est une équipe qui a plus d'arc à son.
Oh là là. D'arc à son flèche.
C'est une équipe qui a plus de. Voilà. Qui a plus de variations possibles dans le jeu. On le voit en cours de match. Bentancourt est capable de faire une passe lumineuse qui peut sortir.
Me dit-on.
Non, mais ça c'est un peu abusé. C'est très ouais, réducteur.
Ça fait partie de leur valeur.
La Guara, là, ils vont la garder, c'est sûr. Oui, voilà. T'as quand même des joueurs de caractère. Mais t'as un milieu de terrain qui permet beaucoup plus de choses qu'auparavant.
Oui, il y a plus d'armes sur le plan technique, je suis d'accord.
Bon, donc Uruguay, Équateur, cette nuit on suit la Copa América avec Jonathan et avec vous au 32-16 hein, également. On attend le Chili, double tenant du titre.
C'est la grosse interrogation. Voilà. Rueda est arrivé, il a pris cette équipe qui est partie totalement en cacahuète après le fait de pas s'être qualifié pour la Coupe du Monde 2018, alors qu'après la Copa América Centenario en 2017, il s'avançait comme un des favoris de la Coupe du Monde au même titre que le Brésil, que l'Espagne et que l'Allemagne. C'est une génération en fait qui a rompu la malédiction, cette malédiction qui était que le Chili c'était un pays de losers, mais cette génération avec les Arturo Vidal, Alexis Sanchez et tout ont enfin réussi à gagner quelque chose avec le pays. Et là, ce qu'il faudrait, c'est un renouvellement générationnel, mais c'est très difficile parce que ces gars-là ont atteint le statut d'idole au Chili. Ouais. C'est dur de se séparer de cette équipe qui a réussi à gagner pour la première fois avec le Chili.
Ouais, les lendemains
et puis,
sont toujours difficiles.
Je veux pas faire une fixette, mais t'as quand même un type qui s'appelle Marcelo Bielsa qui est arrivé, qui avait restructuré le football chilien et qui avait fait un travail sur le moyen terme. C'est lui qui a lancé hein, les Vidal, les Medel, tout ça. C'est grâce à Marcelo Bielsa. Et là, malheureusement, il y a du potentiel dans les sélections de jeunes chiliennes, mais c'est pas encore ça, c'est pas au même niveau. Donc t'es pris, t'as le cul entre deux chaises, entre des gars qui sont en fin de course et des jeunes qui sont pas au niveau. Donc c'est une sélection qui est un petit peu dans le doute, mais attention sur l'orgueil, les Medel, les Vidal, les Sanchez, c'est un petit peu leur dernier grand rodéo.
Ils peuvent peut-être Alexis Sanchez, on l'a commenté régulièrement sur RMC Sport cette année, ça va être compliqué quand même pour qu'il soit
Mais moi, je vous dis, tant que je peux voir Gary Medel, je suis heureux.
Non. C'est fini entre le Paraguay et le Qatar. 2-2 score final entre les deux équipes. On joue toujours à l'Euro Espoir entre l'Italie et l'Espagne. 3-1 pour l'Italie. Désormais, on en reparle avec Simone Rovira et Fred Hermel dans quelques instants. Et puis, les deux matchs amicaux du soir. L'Algérie a définitivement gagné face au Mali 3-2. Et actuellement, l'Égypte, dans le temps additionnel, mène 3-1 face à la Guinée. Les matchs de préparation à la CAN. Les drôles de l'âme dans quelques instants. Tout le foot européen. Pogba au programme. Sarri, plus donc tout le reste. Il y a encore plein de choses. C'est jusqu'à minuit. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot.